un petit bonhomme.
Et oui, comme on l'a dit, hein, émission spéciale Paris Saint-Germain, donc cette semaine, hein, effectivement, le club phare de notre région. Alors, on a des intervenants dans cette émission. On aura aussi un intervenant que sûrement Jean-Louis Leplat connaît, hein, c'est notre ami Gérard Lescour, hein, journaliste qui a été journaliste à France Soir, qui a écrit le bouquin sur les Verts et qui a été ensuite délégué général et chargé de la communication du Paris Saint-Germain auprès de Francis Borrelli, pour qui on a encore ce matin une pensée. Alors, invité donc d'abord Jean-Louis Leplat. Jean-Louis, bonjour.
Bonjour.
Venu aujourd'hui en tant que président de l'amicale des éducateurs d'Île-de-France de foot. Hein.
Tout à fait.
Et puis le Paris Saint-Germain, vous êtes concerné, Jean-Louis.
Bah évidemment, c'est le club de notre territoire. Alors, forcément qu'on est concerné.
Hein. Alors, elle est venue avec sa casquette et son t-shirt du Paris Saint-Germain. C'est Juliette Rouvel. Salut Juliette.
Oui, salut.
Ça va, en représentant
les
amis du Paris Saint-Germain.
Le club des amis du PSG.
Alors, on va faire une émission un peu spéciale sur le PSG parce que, je l'ai dit, hein, c'est le club phare de la région. Ça draine quand même tout un foot francilien. On va revenir sur cette semaine décisive qui n'est peut-être pas terminée aujourd'hui.
C'est pas terminé.
Du côté de Nancy. On va faire la situation sur le plan sportif et puis extra-sportif. Jean-Louis, ça vous inspire quoi, ces difficultés rencontrées par le PSG? Je parle d'une façon générale sur le foot francilien, hein, parce que ça draine tout le reste, quoi.
Bah, ça appelle de ma part l'observation suivante, c'est que le PSG, c'est effectivement le club des Yvelines, mais c'est le club francilien. Ce qui me gêne peut-être un peu, c'est que quand même le réservoir francilien, c'est le réservoir le plus important du football français. C'est là que tous les clubs professionnels viennent, entre guillemets, s'alimenter. Donc on se demande pourquoi, quand même, à un moment donné, le PSG qui a sur son territoire tous ces jeunes joueurs et d'excellents joueurs ne parvient pas peut-être à emmener à l'échelon suprême donc au niveau professionnel tous ces jeunes joueurs. Alors, ceci dit, la concurrence est terrible. La concurrence est terrible sur notre territoire.
Oui. Alors justement, il y a quand même des problèmes pour le foot francilien. Ça fait un moment que le foot francilien n'est plus ce qu'il a été. Hein. Il y a des équipes en national, le Paris FC, on a Villemomble, on a Créteil, on a Sannois-Saint-Gratien. Plus loin, plus bas, on a des clubs sur l'Essonne comme Viry, Évry ou Corbeil, ou même Poissy aussi. Hein. Il y a quand même de grosses difficultés, c'est plus que ça a été. On est loin de vouloir ce deuxième club qu'on voulait en Île-de-France.
Bon, rappelez-vous, Philippe, on en a parlé il y a quelques semaines. Hein, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aussi pourquoi, sur Paris, on n'arrive pas à monter un deuxième, voire un troisième ou un quatrième club francilien. Regardez, comparons avec Londres, qui a 7 ou 8 clubs professionnels. Hein, Arsenal, Chelsea, et bien d'autres. Hein, je veux dire, on a du mal à comprendre pourquoi nous, on n'arrive pas à le
c'est
faire.
C'est quoi? C'est des manques de moyens parce qu'il n'y a pas trop de résultats, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a des manques de moyens.
Moi, je crois qu'il faut surtout une volonté politique, une politique sportive pour arriver à monter ce deuxième, voire ce troisième club. Je crois qu'il y a quand même des personnes qui adorent le football sur la région parisienne, donc on ne voit pas pourquoi on n'arrive pas à monter ces clubs.
Et puis il y a aussi quand même sur Paris Saint-Germain, il y a des équipes, il n'y a pas que la section professionnelle, il y a toutes les équipes amateurs. Hein.
Vous faites bien de le signaler, parce que ça c'est fondamental. Alors là, il faut le rappeler, c'est un point tout à fait positif, c'est qu'il y a quand même un centre de formation professionnelle qui était le meilleur, qui était le meilleur de la région francilienne, qui est le meilleur de la région d'ailleurs française, je me reprends, pas francilienne, et la formation est excellente. Donc ce vivier de jeunes joueurs, il devrait être amené au plus haut niveau, au niveau professionnel. Et il y a aussi le CFA qui existe à Saint-Germain-en-Laye, avec Thierry Morin. Il y a quand même un outil au sens général du terme qui est tout à fait apte à développer le football sur l'Île-de-France.
Et c'est ça qui est incroyable, c'est que depuis quelques années, on se demande qu'est-ce qui est devenu ce réservoir, quoi.
Ce réservoir, moi j'ai l'impression, évidemment je ne suis pas au cœur du système, hein, mais j'ai bien l'impression que même le PSG, pour ces jeunes, il se fait aussi un peu piller par d'autres clubs. Alors évidemment, les jeunes ne parviennent peut-être pas toujours à l'échelon professionnel au PSG, puis ils vont tenter leur chance ailleurs. Mais très souvent, quand on regarde dans les sélections ou dans les clubs de province, on se rend compte que les joueurs sont passés par le PSG. Donc ça prouve que la formation a été bonne. Oui. On peut au moins dire ça.
Oui, puis il y a des joueurs franciliens qu'on connaît, qu'on n'a pas été chercher au PSG. Hein. Thierry Henry, Bousson, ils sont de la région. Et puis,
Oui, mais il y en a d'autres.
Oui, ils sont de la région, mais s'ils veulent aussi aller à ailleurs, on ne peut pas les empêcher. On voit bien, ne serait-ce qu'entre la France et puis les pays étrangers, bon, ils partent bien, il y a un problème, l'argent, il y a pas mal de choses à revoir.
On avait le choix de Trezeguet, hein, qui a pas été pris au PSG, c'est Monaco qui l'a choisi.
Oui, mais on voit les joueurs au jour d'aujourd'hui, mais comment étaient-ils il y a quelques années? Peut-être qu'il y en avait d'autres qui, sur le terrain, paraissaient peut-être un peu meilleurs. Bon, après tout, c'est le choix des entraîneurs et de la direction sportive du club.
On voit aussi qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont à Paris Saint-Germain, qu'après, quand ils sont prêtés en province ou ailleurs, et ben, ils s'éclatent, ils jouent. Qu'est-ce qui fait que... Alors, est-ce que c'est le fait qu'à Paris, on a trop de centres de jeux, d'amusement, et que, bon, les jeunes, ça traîne la nuit. Et c'est pas pareil qu'en province. En province, il y a deux cafés, ça va. Mais bon, à Paris, faites l'avenue des Champs-Élysées. Vous avez tout ce qu'il faut et comme il faut, quoi. Alors, bon, le problème est aussi là.
Il y a des tentations, quoi.
Oui, il y a des tentations.
Jean-Louis, donc vous allez au Parc des Princes de temps en temps.
De temps en temps, oui, comme mon emploi du temps me le permet.
Ouais. La situation sportive du PSG, vous en pensez quoi? Ils vont s'en sortir, Paris? Ils doivent s'en sortir?
Bah, écoutez, la situation est un peu comparable à ce qui s'est passé l'an dernier. Moi, je l'ai un petit peu.
Quelques années.
J'ai vécu aussi parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Thierry Morin au CFA et puis avec ses collègues, hein, ou Bertrand Roseau. Et la situation est comparable. Ah bah, je pense que cette année ça va être pareil, on sait ce que c'est, une équipe elle doit se battre pour sa survie, pour son maintien, ils vont le faire. Et moi d'abord, je leur souhaite bien sûr de se maintenir, et je pense qu'ils doivent se maintenir, mais évidemment ça va pas être une partie de plaisir, si je puis dire.
Alors Juliette, Paris va se maintenir,
Paris va se maintenir. Écoutez, c'est vrai, ça fait 2 ans qu'on plonge dans des difficultés, mais bon, il y a beaucoup de choses autour aussi qui font que Paris aussi a été en difficulté. Hein.
Alors, Gérard Lescure, je coupe, hein, que j'ai eu vendredi au téléphone, m'a dit, attention, je vais balancer aujourd'hui. Alors, on va le voir tout à l'heure au téléphone, on va voir, il va balancer, donc on verra.
Hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein, en réfléchissant bien, ça fait 2 ans que Paris a des difficultés. L'année dernière, ça a été des grèves. Ces grèves-là, d'où sont venues? Parce que c'est vrai que les joueurs n'arrivaient pas à se mettre en place correctement. Ils n'avaient pas le moral et tout. Mais je dis quelque part. Quand ce club ne fonctionne pas, et quand on voit que les supporters sont dans un état comme ils ont été il y a 2 ans avec leur grève, cette année avec cette fameuse banderole, questions, je me dis que derrière, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Mmh. Et ça, on me dira pas le contraire. On en parlera plus largement tout à l'heure.
Ouais. Alors, pour revenir sur la situation sportive du club, on a le sentiment que nous, les anciens, tout a commencé après le départ de Michel Denisot, quoi. Ça a commencé. Paris a gagné des coupes, mais il y a eu des équipes de présents qui se sont succédées. On a le sentiment qu'il y a eu des mauvais choix de fait, des mauvais castings, des gens qui se sont pas assez investis dans la vie du club, quoi.
Tout à fait. Je pense au niveau du staff, au niveau de la direction, il y a eu, simplement des gens qui sont venus pour un petit peu faire du business. Je pense qu'avec Monsieur Kézak, il cherche à mettre les choses en place.
Est-ce qu'il a les
pleins pouvoirs, peut-être pas, mais il a le pouvoir de faire les choses et de. Ben, nous aussi, hein. On est au club, on n'a pas les pleins pouvoirs. Quand il faut faire de l'animation, on doit passer par le club, on doit demander l'autorisation, on doit faire en fonction du club. Mmh. Alors, c'est par rapport à ces jeunes qui sont des associations de supporters, je me demande comment ils font pour faire du n'importe quoi, à n'importe quel moment, sans qu'on ait un regard sur ce qu'ils font. Mmh. Nous, quand on demande à faire une animation, le club des amis du PSG, on me demande qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que ça va être, avec quoi on va fonctionner et tout. Alors bon, il y a un problème aussi à ce niveau-là, quoi.
Oui, parce que Juliette, on va rappeler que les amis du Paris Saint-Germain, c'est la première section.
C'est la première section
qui a été créée,
tout à
du
fait.
Temps de Guy Adam, je crois.
De Guy Adam, oui, tout, voilà, tout à fait.
Donc vous avez suivi toute l'évolution
du Paris Saint-Germain. Ah ben oui, je suis arrivé en 82,
Daniel Echter, Francis Borrelli et tous les présents.
J'ai entendu parler, effectivement.
Donc, effectivement, on a le sentiment que depuis, on critique Alain Roche, par exemple, mais il n'a pas les pleins pouvoirs dans le recrutement.
Est-ce qu'il a les moyens? Parce que quand il faut aller chercher des joueurs à l'étranger, il faut quand même avoir les moyens. Si on n'a pas les moyens, c'est ce qu'il joue maintenant. Il y a les moyens. Il y a quand ils sont logés à Paris, qui doit payer le loyer pour eux. Il y a les impôts. Il y a aussi les primes. Il y a aussi la paye. Parce que certains joueurs ne viennent pas parce que bon, on ne les paye pas suffisamment, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit faire aussi en fonction de ces histoires? Parce que pour moi, je pense qu'il faut mettre une base de salaire et après compléter avec des primes.
Ouais, comme Platini, vous, quoi. Voilà. C'est ce que veut Platini sur l'ensemble.
Vous gagnez des matchs, vous avez la prime, vous gagnez pas des matchs, vous n'avez pas de prime. Et à ce moment-là, mais alors bon, mettre une base, comme un petit peu comme on fait dans les entreprises. Vous avez 5 ans de métier, vous touchez tant, vous avez 10 ans, vous touchez tant, vous avez 15 ans, vous touchez tant, mais avec une base. Et après, c'est complété par des primes.
Ouais, des sortes de primes d'intéressement, quoi, comme ça se fait dans les entreprises.
Oui, mais bon, même des primes des primes de but, pourquoi pas.
Jean-Loup, vous êtes d'accord avec ça ou...
Je crois que ça serait peut-être un peu plus simple parce qu'au moins les joueurs, ils auraient peut-être tendance à s'investir un peu plus sur le terrain, du moins pour certains, parce qu'il y en a qui effectuent correctement
pourquoi
leur métier.
Vous pensez que certains ne mouillent pas le maillot?
Vous savez, il y en a qui vivent beaucoup le transfert, alors ils flambent au moment où il faut flamber, et puis après, ils disent tiens, je négocie mon transfert, et puis derrière tout ça, il y a aussi les agents, il ne faut pas oublier, qui poussent au transfert des joueurs. Donc c'est, maintenant, on le voit de plus en plus, c'est difficile pour un joueur d'être toute sa carrière dans le même club, ça n'existe plus. Il a intérêt à un moment donné à changer de club s'il veut améliorer son salaire. Donc il va rester un an, deux ans, et puis alors, il y a le mercato. Il y a même des joueurs qui restent six mois dans le club, puis qui partent. Enfin, je veux dire, tout a bien changé.
Juliette, il y a des gens au PSG, il y a des joueurs, vous qui assistez pratiquement à tous les matchs, il y a des joueurs qui mouillent pas le maillot d'après vous?
Je ne pense pas qu'ils ne mouillent pas le maillot.
Ils sont pas tristes quand ils perdent.
J'aime pas ce terme mouiller le maillot. Ils n'ont qu'à rentrer entièrement douché et puis on dira ça y est, il est mouillé aussi. Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a le sentiment qu'ils ne donnent pas tout, quoi.
Il y en a qui ne donnent pas tout à certains moments parce que dans certains matchs, on a vu certains marcher sur le terrain. Et nous, dans les tribunes, on leur dirait mais vas-y, avance, cours, fais quelque chose. Et dernièrement, quand je suis allée au camp des loges, j'en ai vu un et je lui ai dit il faudrait peut-être te bouger un peu. Ah ben oui, de temps en temps, on peut leur parler, alors pourquoi pas. Je crois que contre Strasbourg, je l'ai vu bouger. Alors, dans sa tête, il y avait une petite pensée de Juliette qui disait, écoute, avance. Mm-hmm. Alors, quelque part, il y en a qui ne courent pas suffisamment. C'est vrai. Et puis, il y en a d'autres qui se défoncent comme Rotten. Quand on voit Rotten courir sur tous les parcours, Chantôme qui court partout, Chantôme, il est souvent blessé aussi. Là, c'est le joueur qu'il faut mettre de côté parce qu'il gêne aussi quelque part. Ça, on le sent bien. À plusieurs reprises, il a eu des coups, mais vraiment, je me suis demandé si vraiment c'était des coups par rapport au jeu ou c'était des coups où il fallait quand même le casser un petit peu. Et là, ce matin, je regardais l'équipe TV. Japonais qui ne jouait pas contre Nancy. Et il est important dans le club. Quand on voit Yepes, à qui on a fait une cassette sur Yepes. Alors là, moi, je l'ai de travers. Et que quelque part, on l'a surveillé pendant 3 mois, alors que dans d'autres clubs, il y a eu les mêmes fautes, les mêmes erreurs, et que lui, on l'a tanné à tel point que l'entraîneur était obligé de le mettre de côté à un moment donné parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir dans son jeu. Mmh. Eh bien, à la fin, on lui a cassé le pied, avec Cissé lui a cassé le pied. Il a eu un carton jaune, alors que Fro, qui a fait une faute sur un joueur de Lille, de Nice, je crois, au Lille, il a eu 3 mois il a été coupé de 3 mois. Là, je ne suis pas d'accord non plus dans ces façons de mettre les choses en place.
Alors, on va continuer à parler de tout ça. Je vous avais promis qu'on avait donc un intervenant au téléphone. C'est donc Gérard Lescours, celui qui a été avec Francis Borrelli, le délégué général du Paris Saint-Germain, chargé de la communication. Gérard, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour.
Alors Gérard, avant de rentrer dans la situation extra-sportive du club, un petit point sur... vous avez connu l'époque de Francis Borrelli, un petit point sur la situation sportive actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous la vivez, vous, vu de l'extérieur?
Bon, si on est dans l'actualité, je crois qu'il y a un beau petit coup à faire à Nancy. Bon, en restant optimiste, mais si on regarde globalement la situation, c'est globalement un échec. Et le mot qui résume, c'est pour moi, c'est incompétence totale. Incompétence totale, aucune vision du football. C'était illustré à l'avant-saison de par le recrutement. Donc on nous a recruté des jeunes, des espoirs, hein, équipe de France Espoir. Après, on a fait jouer des jeunes. Hein. C'est un peu l'histoire de Coluche et sa lessive qui lave plus blanc que le blanc. Là, c'était les jeunes plus jeunes que les jeunes. Un peu plus, on avait les féminines. À l'intersaison, mercato d'hiver, on a identifié les points faibles. C'est le côté droit. Qu'est-ce qu'on nous ramène ? Deux Brésiliens pour 6 millions d'euros. Pour 6 millions d'euros. Comment ? Et on nous dit qu'on les a visionnés 56 fois. Il y en a un, il a les pieds carrés, il n'a pas sa place en CFA 2. Il était sorti l'autre jour. Donc, incompétence totale. Voilà. Ceci étant, je pense qu'on va quand même se sauver. Mais bien que si le PSG se sauve, ça ne masquera pas l'échec de la présidence de la CAISAC, que j'aime bien, mais il faut voir la réalité en face.
On a le sentiment qu'il n'a pas les pleins pouvoirs, hein, Gérard.
Ah, mais c'est quoi un club professionnel en France, hein, je dis ? C'est à l'image de son président. Il n'a pas voulu le pouvoir, ou alors il n'a pas su le prendre. Vous savez, on dit que parfois, pour un président de la République, c'est la fonction qui fait l'homme. Et bien là, c'est pareil. Mm-hmm. Mais bon, tous ceux qui le connaissent ne sont pas surpris.
Oui.
Il n'est pas... C'est pas un grand président. C'est pas un grand président. Alors,
trop gentil.
Tout le monde dit, mais oui, mais il aime le club. Ah, oui. Heureusement. Qu'est-ce que ça ferait s'il ne l'aimait pas ?
Est-ce qu'on ne paye pas aussi les erreurs précédentes, aussi des présidents précédents ? Parce que depuis une dizaine d'années, on a le sentiment qu'il n'y a que des erreurs de casting au PSG.
Ah, c'est vrai qu'on les a accumulées. Bon, bah, un club, c'est comme un homme, c'est son histoire. C'est sûr qu'on les a accumulées et que... Mais bon, quand même. Il y avait... auparavant, on donnait le change, quand même. Et alors que là, on est parti dans une sorte d'obstination. Il faut attendre cette période critique pour s'apercevoir que Pauleta est indispensable. Mais comment c'est possible ? Mais vous interrogez dans... Les meilleurs stratèges sont ceux qui s'obstinent le moins. Machiavel l'avait écrit. Bon, comment peut-on s'obstiner comme ça ? Et à faire jouer encore Seria à droite qui est... Bon, faites-le jouer n'importe où sur le terrain. Mais il ne sait pas défendre. Et le nombre déjà de buts dans lesquels il est impliqué, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Donc, quand on veut pas voir la réalité en face, eh bien, voilà ce qui se passe.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, la saison prochaine, si le club se maintient ? Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ?
Déjà, de la cohérence.
Oui.
De la cohérence. Et puis, améliorer les points faibles, tout simplement. C'est l'ABC, hein, améliorer les points faibles. Bon, on a... Regardez, par exemple. Bon, j'ai rien contre Camara, bien que... Bon. Hein, de la tête, c'est pas le... Et pourquoi fallait-il prendre un arrière central qui soit très fort de la tête ? Parce que Landro, qui a traversé une passe difficile, mais qui revient bien, est le plus fort certainement sur sa ligne du championnat de France, mais il est pas bon dans les sorties. Donc il faut compléter ses défaillances en faisant venir des joueurs qui sont forts de la tête. Mmh. C'est tellement logique. Un peu de logique. Je demande de la logique.
D'accord. Et donc, vous, il y a un club qui a perdu son âme, c'est ce que tout le monde dit. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ah, mais là, ça fait un moment. Hein.
Oui.
Bon, moi, déjà, à l'époque, l'époque Canal, il y a eu... Ouais. Il y a eu tellement d'argent investi qu'il y a eu des équipes formidables. Mais c'était de la satisfaction pour les supporters en trompe-l'œil, mm-hmm. parce qu'il n'y avait déjà plus l'esprit club qui était cher au président Borrelli. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Le club a commencé à perdre son âme. Et puis alors maintenant, elle est en lambeaux. Mm-hmm.
Et donc vous, si vous un jour vous reveniez aux affaires, quelles seraient vos premières décisions ?
Oh, d'abord, je pense pas qu'on fasse à moins. J'y songe même pas, mais je reviendrai à d'humilité et de logique en essayant donc de faire une équipe cohérente, ce qui veut dire complémentaire. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs saisons. Mm-hmm.
Et aussi un centre de formation important au PSG.
Le centre de formation, c'est pas mal ce qu'il fait apparemment. Mm-hmm. Mais c'est toujours plus difficile à Paris aussi. C'est ça aussi qu'il faut bien se rendre compte. C'est dans le recrutement aussi un paramètre qui est très très important. Mm-hmm. Toko me disait souvent, quand on arrivait avec un nouveau joueur, avec Charles Tallard et Francis Borrelli, il nous disait, je vais vous dire tout de suite si vous êtes trompé ou pas. Et puis après le premier match, il nous disait le verdict. Et c'était pas sa façon de jouer. C'est sa façon de rentrer sur le terrain. Mm-hmm. S'il avait la tête haute quand il rentrait, celui-là, il va s'en sortir. S'il baissait les yeux, parce que c'est impressionnant, le parc. Donc, il faut aussi... Il y a des joueurs qui peuvent réussir à Laval, qui peuvent réussir à Lille, et pas réussir à Paris. Et il faut tenir compte de ça. Il faut des caractères bien trempés pour s'imposer à Paris, parce que c'est plus difficile.
Mm-hmm. Oui, et puis, il y a aussi tellement de tentations, Gérard, que...
Oui, non, mais
c'est... Non, pas ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais bon, ils sont de plus en plus professionnels quand même. Oui. Ça, c'est de plus en plus dur, même physiquement, tout ça. Non, mais c'est pas le... Si vous emmenez les joueurs dans une belle aventure collective, mm-hmm. ils vont être sérieux d'eux-mêmes. Surtout quand les échéances approchent. Mm-hmm. Non, c'est un faux problème pour moi.
Ouais. C'est une équipe qui arrive paradoxalement à se retrouver en coupe.
Oui, parce que c'est une équipe de coups. Ça, j'arrive pas bien à analyser d'ailleurs, mais bon, parce que sur ces matchs-là, ils sont en sur-régime. Mm-hmm. On l'a bien vu contre Lens. Hein, le deuxième mi-temps, c'était dur parce qu'ils avaient tellement donné en première mi-temps, avec beaucoup de panache, et c'était très satisfaisant pour tous les fans, quoi, pour tous les supporters, de les voir se battre comme ça. Mais est-ce que le Oura Football est l'avenir d'un club comme Paris SG? Il faut peut-être un peu plus de talent aussi.
Alors, vous connaissez bien les amis du Paris Saint-Germain, naturellement. Hein.
Les amis?
Oui, du Paris Saint-Germain.
Ah, le président Letellier.
Oui, oui. Alors, on a une de ses représentantes ici, Juliette Rouvel. Juliette, bonjour.
Bonjour, oui.
Alors,
je vous salue, voilà.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, alors, Juliette, vous voulez donc réagir au propos de...
Oui, sur certains points, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, parce que, quand vous dites que les joueurs, n'ont pas non plus d'âme, je suis désolée, parce que,
Non, je n'ai pas parlé des joueurs, madame.
Oui, mais enfin, le club n'a pas d'âme, non, parce que, quelque part, tout le monde essaye de faire un effort pour pouvoir remettre, comme vous dites, on est allé chercher deux Brésiliens, mais pour 6 millions, vous avez mieux à trouver pour 6 millions?
Vous savez quoi, combien il était proposé de Souza à Saint-Etienne?
Oui.
C'est les Stéphanois qui le disent.
Et alors?
Alors, je vous laisse conclure. Ou on ne s'est pas acheté, j'en dirai pas plus. Hein.
Oui, non, mais simplement, aussi, est-ce que les joueurs peuvent se retrouver quand ils jouent ensemble? Il y a tout ça. Il faut remettre les joueurs ensemble, il faut leur apprendre à jouer ensemble. Bon, on a de jeunes joueurs hein, aussi. Le Gouin a essayé de faire aussi un groupe de jeunes. Tout le monde est monté au créneau, on l'a critiqué et tout. Et puis ces mêmes jeunes, maintenant, sont en train de se prouver et de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Alors, que voulez-vous? On a ce qu'on a, on fait avec. Et puis, l'année prochaine, même moi, je fais confiance peut-être à celui qui est allé chercher les deux Brésiliens et que peut-être l'année prochaine, on aura mieux. Et puis, il faut ne pas oublier non plus que dans l'année, on a perdu 9 points avec des erreurs d'arbitrage. Je suis désolée. J'aime pas taper sur les arbitres, mais je vous dirais que, à l'heure actuelle, si on remettait à plat tous les matchs qu'on a joués, tous les clubs, je suis persuadé que Paris ne serait pas 17e.
Gérard ?
Oui, mais vous savez, madame, c'est le discours que tiennent tous les clubs qui sont en difficulté à la fin de la saison. Oui. Hein, c'est valable pour Monaco, hein, qui se plaint de l'arbitrage, c'est valable pour tout le monde.
Mais non.
Donc, on sait. Où vous avez raison, c'est que c'est plus difficile pour Paris. Pourquoi ? Parce que quand un arbitre est désigné pour un match à Paris, il joue devant toutes les instances de l'arbitrage, il joue devant la fédération, il joue devant la Ligue nationale, et il va faire un numéro d'arbitre impartial. Donc il n'y aura pas de ce qu'on appelle un peu d'arbitrage maison. Hein. Ça, c'est évident, mais tout le monde le sait que c'est plus difficile. Et donc il y a forcément des matchs où, effectivement, au bout du compte, on n'avait pas les points qu'on méritait. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une équipe plus forte encore.
Alors, Gérard, on a aussi Jean-Loup Leplat qui est avec nous, qui est président de l'Amicale des éducateurs d'Île-de-France de foot. Hein. Jean-Loup, vous vouliez aussi donc réagir à ce que vient de dire donc, Gérard.
Oh, mais j'ai suivi attentivement ce qu'a dit Monsieur Le Secours. Mais je crois que dans les grandes lignes, je serais plutôt d'accord avec lui. Je crois qu'effectivement, le PSG paye une forme d'instabilité chronique ces dernières années, tant au niveau de la présidence que peut-être de l'encadrement qui change, les joueurs qui changent. Donc c'est vrai aussi que au crédit des entraîneurs qui se sont succédés, c'est quand même pas facile non plus de gérer ces groupes qui changent sans arrêt. Et puis c'est vrai, cela a été dit, mais il n'y a peut-être pas toujours les joueurs de la qualité qu'il faudrait pour opérer à certains postes. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est vrai, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu de l'argent à une époque. Alors est-ce qu'il y en a encore et est-ce qu'il y a moyen pour le PSG d'avoir les moyens financiers suffisants pour s'aligner des équipes avec lesquelles il pouvait parfaitement concurrencer il y a encore quelques années? Alors moi, je ne sais pas répondre. Je ne connais pas les finances exactes du PSG sur ce point-là.
Non, mais là, je ne pense pas effectivement que le PSG ait les moyens de rivaliser aujourd'hui avec Marseille et encore moins Lyon. Mais ceci étant, plusieurs fois, il a été dit que l'enveloppe recrutement n'avait pas été dépensée complètement. Alors, je trouve que, bon, il n'y a pas pléthore de grands talents. Et puis, je veux dire, les points faibles sont clairement identifiés. C'est ça qui m'épate le plus. Le côté droit, au mercato, c'était là qu'il fallait le renforcer. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On est sauvé par ceux qui étaient décriés à l'heure, par Mendy et Diané. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on ne s'est pas renforcé à ce moment-là. Et c'était alors que ça avait été annoncé qu'il y avait le budget, puisqu'il y avait 6 millions d'euros qui ont été dépensés. Je pense que ce sont des fautes accumulées qui mettent en danger la vie du club, tout simplement.
Gérard, ce serait une catastrophe si Paris descendait quand même.
Ah, j'ose pas l'imaginer.
Oui, oui.
Je sais pas, ça peut être la fin du club, je sais pas, mais bon, je veux pas faire de catastrophisme. Il y a quand même, peut-être que ça ameuterait toutes les bonnes volontés et que ça permet de repartir, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument pas envisager maintenant.
Absolument. Alors, il y a eu naturellement aussi cette semaine, hein, les confrères médias en ont beaucoup parlé, naturellement, cette histoire de la banderole hein, qui a presque plus occulté la victoire en Coupe de la Ligue. Vous en pensez quoi, vous? C'est un phénomène qui revient donc régulièrement?
Moi, je trouve que on en a fait des tonnes, hein, là, hein, aussi bien, bon, les membres du gouvernement, les médias, les instances du football, le président Albardier Thiriez, là, quand il a parlé, quand il a dit nous sommes tous des ch'tis, c'est l'opéra bouffe, c'est exagéré. Bon, pas de chance, ça tombe en pleine ch'timania, cette banderole. Donc, c'est mal tombé. Bon, puis Silence avait gagné, ça aurait peut-être été différent. Et puis, si ça s'inscrit, si les mesures qui vont être prises s'inscrivent, bien évidemment, dans le cadre de la lutte contre la violence dans les stades, on est obligé de dire qu'il faut faire quelque chose, parce qu'on doit aller en famille au Parc des Princes et sans avoir peur. Voilà. Alors, donc, il faut tout faire pour... Mais autrement, cette banderole, elle est... Bon, c'est une grosse gauloiserie.
Oui. Et justement, beaucoup se demandent comment on peut rentrer de telles banderoles dans les stades.
Parce que c'est dans...
C'est des bouts de...
Oui, c'était des bouts de banderoles. Et bon, ils ont beaucoup d'imagination. Et puis, moi, je suis persuadé que... Alors, je parlais de gauloiserie, mais ceux qui ont été attrapés, là, ils ont l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête. Hein, parce que ils étaient... Je suis sûr qu'ils pensaient qu'ils étaient drôles et qu'ils allaient faire rire toute la France. C'est plus de la bêtise qu'autre chose. Hein.
Gérard, vous qui avez beaucoup connu d'équipes, enfin de groupes de clubs de supporters sur le PSG, hein, beaucoup d'équipes, est-ce que vous êtes pour la disparition de certains groupes de supporters à Paris, la dissolution?
Là, je connais pas bien assez le dossier pour me prononcer d'une façon catégorique. Hein. Bon, ça serait dommage parce que les boys, ça fait longtemps qu'ils sont là. Moi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'excès, que le club en a souffert aussi, hein, faut bien le dire.
Oui, c'est pour ça. Ouais.
Mais je vais vous dire, sous le manteau, du temps où j'étais aux affaires, combien de présidents ou d'entraîneurs de clubs adverses, tout en faisant des déclarations désagréables sur nos supporters, nous disaient si on pouvait avoir les mêmes, hein, parce qu'ils ont été aussi d'une fidélité et ils ont sauvé des situations. Mais ceci étant, je suis... faut pas laisser passer la possibilité qu'il y ait des actes de violence dans un stade. Ça, c'est pas possible.
Mmh. Et puis, aussi, des clubs de supporters souvent très influents dans les prises de décision vis-à-vis des clubs. Vous êtes pour, vous êtes contre ?
Ça n'existait pas à cette échelle à mon époque. Mmh. Ça, je suis assez dubitatif par rapport à ça. Je comprends pas. Chacun doit être à sa place, quand même.
Mmh. Mmh.
Ouais. Ça, je comprends pas. Mais, bon, c'est de l'abandon de pouvoir, hein, du président, hein. Quand je dis du président, je veux dire, et du staff, de l'abandon de pouvoir.
Et apparemment, les clubs de supporters n'ont aucune relation entre eux.
Ah non,
entre
elles, du tout. Donc, aucune relation. Ouais. Parce que quand on veut les rencontrer, ça, ouais. Ils refusent. Pourquoi ? Parce que nous, bon, on est quand même un petit peu plus seniors dans notre groupe. Et ça, ils n'aiment pas trop. Parce que bon, ça va les mettre un petit peu plus à éviter certaines erreurs. Mais pour revenir à cette banderole, moi, je qualifie cette banderole comme vous dites. Mais moi, je dis derrière, bienvenue chez les Ch'tis. Vous pouvez voir aussi bienvenue chez les Noirs, bienvenue chez les Arabes, bienvenue chez les Corses, bienvenue chez tout ce qu'on veut. Parce que quand là on en fait, c'est vrai, toute une histoire pour cette banderole, je pense qu'il faut aussi punir ceux qui ont mis cette banderole. Mais à Lyon, on l'a fait cette banderole contre contre Saint-Étienne. Et quand encore quelqu'un, un journaliste disait, cette banderole, on l'a cachée. Si on l'avait pas cachée, cette banderole, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là avec Paris aussi. Alors, quelque part, il faut essayer quand on lance des bananes sur le terrain, c'est pareil, tout ça, c'est la même chose. Alors, il faut donner, il faut punir tous ces gens-là. Et puis, si Ouadoun n'avait pas sauté parmi les supporters pour attraper celui qui l'avait insulté, eh ben, les choses seraient passées aussi à côté. Alors, bon, on en fait pour un, on en fait pour tout le monde.
Vous avez raison.
Oui, donc il faut carrément les interdire de stade, même à l'étranger.
Il faut fermer Boulogne. Moi, pour les derniers matchs, je dirais, on ferme Boulogne. On continue, parce qu'il n'est pas question qu'il y ait des matchs à huis clos. Moi, je ne l'accepterai pas. Je ne suis pas d'accord. On ferme Boulogne. On fait venir des enfants scolaires. On fait venir tout ce qu'on veut dans Boulogne. Hein, et puis, à ce moment-là, les matchs se continuent. Et si maintenant M. Thiriez veut donner une sanction, eh bien, la prochaine Coupe de la Ligue ou la prochaine Coupe de France que joue à Paris au Stade de France, à ce moment-là, on joue le match à huis clos au Stade de France.
Jean ?
Oui, enfin, moi, fermer Boulogne, en tant qu'ancien dirigeant, dans ces moments où on a besoin de toutes les aides, je le verrais d'un mauvais œil, hein, parce que, bon, avec tous ces excès...
Mais oui, mais parce qu'il y a quelqu'un derrière qui tire, monsieur. Je vous garantis que si Paris descend en deuxième division, c'est une façon de chasser monsieur Kézak, une façon de racheter le club, de chasser les actionnaires, et il y a quelqu'un derrière qui tire, parce que ces gens-là n'ont pas fait cette banderole tout seul.
Ah, ça, je sais pas.
Jean-Loup ?
Oui, moi je reprendrai la question, mais d'une manière beaucoup plus générale, sans parler spécifiquement du PSG. Ces actes-là, on les voit malheureusement sur beaucoup de terrains en France, et je crois
partout,
que tout simplement,
partout.
Bah, y a un nettoyage du football à faire par rapport à des gens qui ne sont pas des supporters. On dit toujours des pseudo-supporters, ils n'en sont pas. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à se battre, très souvent, à proférer des insultes, qui profitent du football pour avoir un terrain de jeu. Mais ça, c'est pas acceptable. Le stade n'est pas un terrain pour eux qu'ils aillent à l'extérieur. Et puis je crois que pour finir, s'il y avait une politique plus ferme pour vraiment identifier ces gens-là, on le peut avec les moyens médias, on sait le faire, on l'a fait pour l'histoire de la banderole, bah, on serait comme en Angleterre où on aurait 3000 interdits de stade, et puis bah, ces gens-là, ils ne nous ennuieraient plus, ils ne donneraient plus une mauvaise image du football. Et ça, c'est pas acceptable. Le football ne peut pas l'accepter.
Alors là, je veux bien intervenir aussi. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Mais, bon, d'abord, méfiance à la référence au football anglais, parce que ils ont doublé le prix des stades, et ils en ont fait un produit de luxe. Comme en Angleterre, tout le monde aime le football. Un chef d'entreprise, vous le rencontrez, il vous donne sa carte de visite, et en même temps, il fait voir sa carte de supporter d'un club. C'est impensable en France. Donc c'est une autre... C'est une autre approche. Hein. Deuxièmement, il faut... absolument mieux former la police. Parce que c'est pas de... pas du maintien d'ordre public. Il faut connaître les codes, parce que ce sont des codes. Des simples gestes peuvent être annonciateurs de graves désordres. Et puis, donc, sa formation de la police aux problèmes spécifiques du football. Ce n'est pas simplement du simple maintien de l'ordre. Et puis moi, je dirais une autre chose, ce qui me paraît encore plus grave que cette banderole, c'est l'attitude moyenâgeuse, hélas, de quelqu'un que j'adore, qui est un ami, c'est Michel Platini. Mais lui, au Moyen-Âge, il aurait fait brûler ceux qui disaient que la Terre était ronde. Parce que du coup, c'est le foot qui tourne pas rond. Parce que la vidéo, elle est complètement nécessaire. Et c'est le sentiment d'injustice qui est générateur le plus souvent de violence dans les stades. Donc ça me paraît être un vrai chantier, mais il vient d'être repoussé du pied. Mmh. C'est dommage.
Ouais, Gérard, justement, il y a eu aussi le pénalty de cette fin de match de Coupe de la Ligue. Vous en pensez quoi? Ça a gâché un peu la victoire du PSG?
Ça a gâché. Non, c'est la banderole qui a gâché.
Oui,
parce qu'on
ne
parlerait plus du pénalty. Mais moi, je réagis. Bon, d'abord, comme un supporter de base, j'étais content, hein, on va pas le cacher.
Oui.
Deuxièmement,
oui,
il est litigieux, mais bon, on en a vu des pires que ça, et là, c'est l'éternel problème. Et ben, revenons à la vidéo et voyons, et ben, même à la vidéo, on aurait vu quand même qu'il n'y avait pas grand chose.
Mm-hmm.
On aurait vu quand même qu'il n'y avait pas grand chose et que c'était un moment psychologique important, quelques secondes de la fin du match. C'était une décision difficile à prendre pour l'arbitre.
C'est peut-être ça le problème.
Voilà. Mm-hmm.
Mmh. Juliette, un petit mot?
Oui, juste de dire, je ne comprends pas que là, il y a trois personnes qui ont été déjà signalées comme porteurs de cette banderole. Il y en a huit autres, puisqu'ils étaient 11, paraît-il. Alors, comment ça se fait qu'à la date d'aujourd'hui, 9 jours après, on n'a pas encore ces huit autres personnes? D'où viennent-ils? Qui sont-ils?
Bah, ça, c'est le rôle de la police, peut-être.
Ouais, ça, c'est...
Hein,
c'est difficile. Et puis vous savez, j'entendais l'autre jour Jean-François Demers qui s'est aussi occupé de sécurité au Parc des Princes, et il l'a fait. Ça a été un grand dirigeant du Paris Saint-Germain, Jean-François Demers. Et il dit c'est difficile parce que on sait très bien qu'il y a certains groupes sont infiltrés et politisés. Donc il faut travailler en étant en étroite relation avec les RG. Ces groupes-là politisés travaillent avec les RG. C'est très compliqué. C'est très compliqué et parfois on n'obtient pas la simple application de la loi. C'est pour ça qu'il faut, je reviens sur la nécessité d'une formation. Donc, de la police par rapport au problème des foules des enceintes sportives, et que surtout que les règlements soient unifiés et clairs, et qu'il y ait un code de conduite qui soit valable pour tous les stades.
Mmh. Très bien. Gérard, merci. Il y a un beau Marseille-Lyon ce soir. Vous en pensez quoi de ce match?
Ah, Marseille-Lyon.
Oui, beau match, hein.
Ah, ça va être un beau match, oui.
Ouais.
Ça va être un beau match. Mais il y en a un autre qui...
Oui, qui est plus important dans ces paris.
Auquel je pense davantage.
D'accord, ok. Très bien. Merci en tout cas.
Merci
puis
à tous. Ça m'a fait plaisir de parler du PSG avec vous.
Le micro, vous êtes ouvert. Hein.
Je vous en remercie
infiniment. Merci Gérard.
Bon dimanche.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir. Voilà. Donc pour Gérard Lescour, qui, on le rappelle, hein, était journaliste sportif à France Soir, qui a écrit le bouquin sur les Verts, donc avec Patrick Mahé et Robert Nata, enfin la fabuleuse histoire de Saint-Étienne, qui était venu d'ailleurs dans ce studio nous en parler, et qui a été délégué général du temps de Francis Borrelli, donc délégué général et chargé de la communication du Paris Saint-Germain, et qui est encore resté naturellement dans le journalisme, notamment du côté de Dominique Grimaud. Juliette, ce qu'on vient de dire, débat intéressant avec des gens qui ont occupé des responsabilités.
Si, c'est intéressant, mais bon, je crois que ces gens-là oublient que Paris a été avant, et puis un Paris après.
Oui, bah oui.
Bon, on a de nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché. Certains partent en province, certains partent à l'étranger. Ils veulent pas venir à Paris. On va quand même pas leur mettre la corde au cou pour les faire revenir à Paris. Mmh. Bon, ceux qui veulent venir, bon, fait avec. Le Gouen s'est donné 2 ans pour remettre une équipe en place. Alors, laissez-le travailler. Bon, qu'on ne descende pas cette année, mais si on est 12e, si on est 10e, si on est 13e, ben mon Dieu, c'est pas la mort dans l'âme. Mmh. On a la Coupe de la Ligue. Et je maintiens que le pénalty est valable parce que je l'ai revu sur toutes les angles. Il y a d'abord un accrochage du pied qu'on montre pas et ensuite de la main. Alors bon, laissez-nous notre coupe, hein. Ensuite, il y a la Coupe de France. Et bon, on verra bien. Si à la Coupe de France, bon, on gagne aussi comme en 95 et en 98, ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Alors bon, il faut essayer de laisser ces jeunes-là se mettre en place, travailler. On a deux Brésiliens, ils vont se mettre en place, ils vont travailler. Puis l'année prochaine, on verra aussi leur rendement.
D'accord. Jean-Loup ?
Ben moi, ce que je souhaiterais pour le futur du PSG, effectivement, c'est que la stabilité se retrouve, qu'on puisse effectivement les laisser travailler. Paul Le Guen, qui est quand même un grand entraîneur, qui a fait ses preuves ailleurs, mais au PSG, il travaille. L'idéal serait effectivement de s'appuyer sur des cadres confirmés, efficaces, et puis d'incorporer quelques jeunes qui viennent du centre de formation du PSG, parce que c'est pas la peine d'avoir un centre de formation si à un moment donné on n'arrive pas à les incorporer dans l'équipe première professionnelle. Ça, c'est vraiment le souhait de l'éducateur. C'est l'éducateur qui parle, bien évidemment.
En tout cas, on a vu des jeunes, notamment Sacco, faire un très bon match. Hein,
mais oui, mais il y a plein de jeunes au PSG. Il y a plein de jeunes. Mais je crois que je suis d'accord avec Juliette. Je crois effectivement qu'il faut laisser un peu de temps au temps, comme on dit, et puis que ces gens arrivent petit à petit à s'intégrer dans le monde professionnel. Mais ils vont y arriver, bien conseillés par leurs anciens.
Et certains joueurs payés cher, dont on sait un peu planté sur les crues, bon...
Bah écoutez, c'est le mouvement du marché, bah ils repartiront peut-être, il y en a d'autres qui arriveront, et puis bah espérons que le recrutement sera bien fait, voilà.
Très bien, allez, 32e journée, hein, ce week-end, donc effectivement, il y a deux matchs importants aujourd'hui, c'est Nancy, donc Paris Saint-Germain, hein, Juliette, 17h10, c'est ça le match, et puis ensuite, donc... 18h. Ouais, ou 18h, et puis Marseille-Lyon, donc à 20h55 ce soir. On va quand même rappeler les résultats d'hier, d'abord la belle victoire de Bordeaux à Rennes 2-0, victoire importante pour les Girondins parce que Rennes allait mieux hein, depuis en championnat.
Il est remonté effectivement cette année.
Donc c'est une victoire capitale importante qui va vraisemblablement permettre en tout cas aux Bordelais donc, de terminer deuxième de ce championnat. Derrière Lyon, match nul entre Toulouse et Lorient 0-0. Match nul aussi entre Lens, ça fait les affaires du Paris, hein, même si Lens va jouer son match en retard face à Saint-Etienne mercredi. Lens, donc match nul entre Lens et Metz, un but partout. Nette victoire de Saint-Etienne face au Mans 4-1. Auxerre a été battu par Sochaux 1-0. Donc là, Sochaux fait une belle fin de saison. Hein. Ils vont probablement donc s'en sortir. Match nul entre Nice et Lille 0-0. C'est plutôt un bon résultat pour Lille, qui est l'équipe des machines quand même, hein, les Lillois. La victoire importante de Monaco devant Strasbourg 2-0. Là aussi, hein, ça fait les affaires du Paris Saint-Germain. Et puis donc Caen qui a battu Valenciennes 1-0. Je crois qu'il y a 4 équipes qui sont
35 points.
Ouais, à 35 points. Ouais, donc, ça va être vraiment une fin de championnat un peu folle. Donc Lyon en tête 67 points. Devant, on l'a dit, Bordeaux 61 points. Nancy 52 points et Marseille 49 points. Et donc derrière, il y a effectivement Lens, Toulouse, Paris Saint-Germain et Strasbourg avec 35 points. On va quand même noter que Lens a un match en moins. Et puis Metz, donc bon dernier, avec donc 18 points et 20e. Ça va être une sacrée bataille. Hein. Je crois qu'il y a 3 matchs à domicile et 3 matchs à l'extérieur qui restent pour Paris. Hein.
Oui.
Hein, il y a Auxerre, Nice et Saint-Etienne qui viennent au parc.
On va en gagner 4.
Voilà. Très bien. Allez, la pause musicale et puis ensuite, eh ben, vous voyez, ça passe très vite. Hein,
ça passe vite.
Et puis la pause musicale, on va parler de ce qui nous attend, Jean-Loup à Créteil, le 19 avril.
Le 19 avril, tout
voilà.
À fait.
Allez, on y va, la musique. Voilà, il reviendra dans 15 jours pour nous faire un petit peu le bilan hein, de la matinée des éducateurs d'Île-de-France de foot qui vont organiser, Jean-Loup, un colloque à Créteil dans 15 jours sur les attaquants. On avait parlé des gardiens, un hein, poste très particulier, très spécifique, donc il y a 2 ans. Et là, autre poste donc important, les chasseurs de but.
Effectivement, il y a 2 ans, quand nous avions fait notre colloque sur le thème des gardiens de but auquel participaient René Vignal, Dominique Colonna, Georges Carnu et Bruno Martini en tant qu'international des gardiens de but, bah, cette fois-ci, on s'est dit, on va prendre les joueurs qui marquent des buts aux gardiens de but, c'est-à-dire les attaquants, les chasseurs de but. Alors, on va inviter effectivement des attaquants prestigieux du football français en mariant les générations. Alors, sans parler strictement dans ce chronologique, on peut citer par exemple Juste Fontaine, qui est quand même demeuré et qui demeurera, à mon avis, dans tous les temps, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, 13 buts, rappelez-vous, en 58.
Il va venir spécialement de Toulouse.
Il vient spécialement de Toulouse, hein, voilà. Mais Serge Matsnagetti, qui est aussi un excellent buteur, il opère à V1, à Valenciennes, à l'époque. François Heut, qui était aussi un grand buteur dans la belle équipe du Racing. Et puis, pour reprendre des joueurs un peu plus récents, Bernard Diomède, qui a été champion du monde. Sarah Boubacar, je vais faire plaisir à Juliette, qui a opéré au PSG, qui était aussi éducateur, recruteur, je crois, à un moment donné. Très gentil. C'était un Yvelinois, il habite à Verneuil, pas très loin de chez nous. Rui Pataka, qui était un excellent joueur de Toulouse et qui est maintenant encore joueur à l'US Créteil. Et puis un ancien aussi que nous avons connu, Roland Guillas, qui a opéré au Girondins de Bordeaux. Voilà, alors il y en avait d'autres, mais vous savez, dans ce monde-là, il y a encore beaucoup de joueurs qui sont en activité sous différentes formes, comme entraîneur, éducateur, recruteur, observateur de match. Et donc, c'est pas facile de les voir. Mais il faut savoir simplement qu'au début, il y avait quand même 13 joueurs, des grands noms du football français qui ont été sollicités.
Alors, Jean-Loup, le but de cette matinée, c'est quoi ? C'est de décortiquer l'évolution du poste d'avant-centre à travers les années ?
Vous avez parfaitement raison. Effectivement, l'objet, c'est de voir quel est le rôle de ce poste si particulier, du chasseur de but, et puis quelle est son évolution, parce qu'il est manifeste que dans les schémas tactiques imaginés par les entraîneurs au fil du temps, tout change. Donc, l'attaquant, lui aussi, il doit changer, il doit se travestir, il doit avoir toutes sortes de formes pour pouvoir être efficace devant le but.
Alors, notamment avec des défenses aujourd'hui beaucoup plus compactes, beaucoup plus serrées. La grosse difficulté de l'attaquant, c'est ça, quoi.
C'est le moins qu'on puisse dire, c'est ultra renforcé, c'est infernal. Quand on voit à la télévision des images où on voit un joueur, bien sûr, un bon joueur, un bon attaquant qui est enfermé par 3, 4 joueurs pour l'empêcher tout simplement de passer la balle devant le but, on se rend bien compte de la difficulté. Alors, pour marquer des buts, c'est encore plus difficile.
Alors, ça va se passer comment ? C'est-à-dire que ça va commencer à quelle heure déjà ?
Alors, ça commence à 9h à la maison départementale des syndicats à Créteil, qui est mis pour la deuxième fois à notre disposition, gracieusement, je tiens à le préciser, parce qu'on a le milieu associatif bénévole. Tout ça ne peut fonctionner qu'avec l'aide des bénévoles et des moyens qu'on met à notre disposition. Ça dure jusqu'à midi, midi et demi. La première partie, il y aura un film introductif qui est excellent, que certains ont peut-être vu sur FR2, FR3. C'est À vos postes, les attaquants d'Alain Vernon.
D'accord.
Et on va voir des images magnifiques de tous les attaquants français, mais aussi d'attaquants du monde entier.
C'est le même principe, on a vu un film sur les gardiens, on avait très bien vu l'évolution des gardiens.
C'était la même chose, c'est un film qui est vraiment excellent, il y a une recherche d'images où vraiment on voit des très très beaux gestes techniques, et je pense que les amateurs, les aficionados, comme on dit dans le sud-ouest, vont se régaler. Et puis après, il va y avoir les interventions, les témoignages de ces attaquants que nous avons cités, Fontaine, Masnagetti, Diomède, Boubacar, Pataka, Guillas, et puis il y aura aussi une intervention d'un entraîneur national sur le thème des attaquants. Alors on peut imaginer ce serait Guy Ferrier, qui est un des entraîneurs nationaux, mais c'est vrai qu'à un moment donné, les noms de Pierre Mankowski et de Jean Galis ont été avancés. Alors, la difficulté, on ne sait pas encore qui ça va être, un entraîneur national, ces noms-là ont été avancés, simplement, vous savez qu'on est en période de préparation du championnat d'Europe, en Suisse et en Autriche, et les entraîneurs nationaux sont envoyés en observation voir des matchs. Alors, ce n'est pas toujours évident d'avoir tel ou tel. Mais enfin, de toute façon, il y aura un entraîneur national.
Alors, c'est une matinée qui est ouverte à tous les éducateurs, tous les responsables de club, tout le monde peut venir.
Voilà, alors c'est une matinée qui est libre. Évidemment, notre clientèle, entre guillemets, à nous, amicale éducateur, évidemment, en premier chef, c'est éducateur. Mais nous, on l'avait ouvert parce qu'on sait bien que dans le football, il y a des dirigeants, il y a des arbitres, il y a des joueurs, et puis il y a des supporters, les vrais, Juliette, cette fois-ci, les vrais, les bons. Et que ces gens-là, je pense, seront ravis, comme il y a 2 ans, de voir des gens qui ont porté haut les couleurs du football français.
Alors, le grand public pourra, ces gens-là pourront poser, tout comme le grand public, s'ils veulent venir, pourront poser des questions, effectivement.
Évidemment.
Différents intervenants, il y aura un débat dans la salle sur
tout à fait. Alors il y aura des interventions, il y aura des témoignages, puis après il y aura des questions qui pourraient être posées par la salle. Et puis cher Philippe, est-ce que c'est vous qui serez l'animateur, faut-il quand même tout de même le préciser, c'est vous qui allez orchestrer tout ça.
Alors justement, le poste d'avant-centre, il y a maintenant des vrais numéro 9, il y a des 9,5.
Oui, on dit ça, 9, 9,5.
C'est intéressant de voir ça.
Oui, il y a celui qui est vraiment en pointe, qui attend le
but.
Il
y a des Trezeguet qui restent là.
Voilà, il y a celui qui attend devant le but, le chasseur, le fauve qui est là, et puis qui met les buts au fond, comme Trezeguet. Et puis il y a celui qui bouge beaucoup, qui vient de beaucoup plus loin. Et puis il y a celui qui tourne autour d'un autre joueur. Enfin, il y a différentes variétés d'attaquants. En ce qui compte, ils mettent les buts au fond.
Et puis un but est un but.
Un but, c'est un but, oui.
On se rappelle les buts, des fois, à à Racro, mais ô combien décisif, d'un Gerd Müller.
Oui, Gerd Müller.
Il a marqué un jeu avec les
Der Bomber, il l'appelait, ouais, hein, Der Bomber. Der Bomber. Et j'ai vu dans le film d'Alain Vernon la fameuse talonnade Madjer.
Ah oui, oui.
Enfin, elle est restée, on l'appelle une Madjer maintenant, hein, du talon. Hein.
Ouais. Porto-Bayern de Munich.
Porto-Bayern, final, ouais, oui, tout à fait. Beau match, voilà, qui est resté dans les esprits.
Juliette, il faut peut-être essayer d'amener Pauletta, pourquoi pas une petite
mais
heure.
C'est ce que je pensais. Il y a Pauletta, il y a Simba aussi qui nous avait
fait la bicyclette.
Ouais, j'ai encore ce pins de la bicyclette.
Mais vous avez raison de dire ça, Juliette, parce que Simba, comme on a fait une affiche, je m'étais dit que ce qui représente très bien l'attaquant, mais dans sa dimension un peu artistique, c'est la bicyclette de l'attaquant. Et je pensais à Simba, précisément. Puisque son affiche des placardés, rappelez-vous, sur tous les murs de Paris à l'époque. On se rappelle fort bien ça. C'était un beau geste, c'était le spécialiste de la bicyclette.
Il y en a eu d'autres. Juliette, elle va s'occuper de ça, si elle peut vous amener pour l'État.
Écoutez, si elle peut m'appeler, alors.
Il faut rappeler la date, peut-être.
C'est le 19 avril.
C'est le 19 avril, c'est un samedi matin. Évidemment, s'il y a un match ce soir, bon, c'est pas forcément évident. C'est notre difficulté, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Parce que...
Alors, beaucoup de joueurs ont été effectivement donc, contactés, on l'a dit, Gary, Gravelaine, mais tous sont.
Il y a eu Raymond Coppa, il faut quand même que moi j'avais rencontré. Nous y étions, Philippe, à la sortie de la cérémonie des du sport, la maison du sport français.
On l'avait interviewé même.
Mais je sais qu'à l'heure où nous avons notre colloque qui sera en Corse, hein, voilà, bon, je veux dire ça.
Parce qu'il vit en Corse maintenant.
Il vit en Corse pour une partie de l'année, ouais.
Alors, un petit mot quand même, c'est un. Jean-Loup, avant-centre, c'est un état d'esprit particulier. Hein. C'est aussi souvent une question de mental. Hein. On le voit, à l'avant-centre qui est en confiance, il marque dans n'importe quelle position. Celui qui n'est pas en confiance, à l'image de Cissé sur certains matchs, il tire à côté ou dans le gardien.
Vous imaginez aussi le temps d'attente qu'il y a pour avoir l'occasion, déjà, pour que cette occasion soit amenée par ses partenaires. L'avant-centre, il est quand même dépendant pour une bonne partie de ses partenaires. La passe juste au bon moment, le bon centre, le centre entrée, enfin toutes les armes qui font qu'à un moment donné, l'avant-centre, l'attaquant peut marquer un but.
Très bien, bah, le rendez-vous donc est pris, puis on fera un petit bilan avec des interviews donc au lendemain. Juliette, on ne pouvait pas finir comme avant-centre pour ne pas parler de Pauletta, quoi. Parce que quand on voit le but qu'il met encore en finale de la Coupe de la Ligue.
Et encore à la Coupe de la Ligue, il a marqué. Non, c'est pour Strasbourg, hein, et son but est valable. Hein, alors là, je dirais là aussi. Hein. écoutez, je souhaite bon courage à Paris pour ce soir. Hein, et puis bon, on va gagner, il n'y a pas de raison. Hein.
Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci Juliette d'être venue nous parler du Paris Saint-Germain. On va remercier Gérard Lescour. Et puis Jean-Loup, donc rendez-vous dans 15 jours.
Oui, rendez-vous dans 15 jours pour le triomphe. Du football et des attaquants, parce qu'après tout, le football, c'est marquer des buts.
Absolument. Hein. Et puis, vous avez eu l'occasion de voir M. Giano dans l'émission précédente. Hein.
J'étais ravi de le rencontrer, mais je le connaissais déjà.
Voilà. Allez, merci à toutes et à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Hein. On parlera d'aventure. Tiens, on aura des gens du Marathon des Sables dans Tribune Sport la semaine prochaine. Et puis, on recevra les sélections d'Abli et on parlera de futsal. Bon dimanche, bonne semaine. On vous laisse avec Radio Village. Hein. Vous n'oubliez pas non plus la rentrée des courses du côté de l'hippodrome de Rambouillet ce dimanche. On vous rappellera les pronostics avec Lionel dans Radio Village. Bon dimanche, bonne semaine.
Bon dimanche, RVE, il est 11h.